J'ai dit que j'allais poser beaucoup de questions et seulement donner des pistes de réponse, parce que en fait c'est le défi d'un réseau, c'est de vous lancer le défi de trouver vos réponses. De toute façon, les miennes ne seraient pas les vôtres, elles seraient beaucoup trop particulières et ne seraient pas adaptées à votre situation. C'est juste une question de temps. Nous n'avons pas le temps de tout détailler, mais je vais vous dire quelque chose à propos de poser des questions, même si elles n'ont pas forcément de réponse. Simplement, le fait de poser des questions fait souvent partie, en tout cas, de la réponse. C'est déjà une porte ouverte sur la réponse et permet d'emblée d'envisager une solution, autant pour l'artiste que pour son entourage. Beaucoup des problèmes et des malaises que j'ai constatés dans ce qu'on pourrait appeler l'accompagnement pastoral des artistes, beaucoup des problèmes et des malaises naissent d'une ignorance ou d'une incompréhension plutôt que d'un réel désaccord. Combien de fois la situation aurait pu être améliorée, simplifiée, rendue plus harmonieuse si seulement il y avait plus de communication entre les différentes personnes, les différentes situations. Généralement, parce que nous avons des a priori, alors poser les bonnes questions permet déjà de déceler les a priori et donc de désamorcer beaucoup de malentendus. Quels sont les enjeux et les défis de la pratique artistique pour le chrétien? Autrement dit, comment avoir une approche chrétienne de sa profession d'artiste? Je trouve qu'en tant qu'être humain, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, vous aurez l'occasion de me poser des questions à ce propos tout à l'heure ou de me lancer des défis si vous voulez. Nous avons, je trouve, du mal à être intentionnel dans plusieurs domaines à la fois. Par exemple, d'un côté, intentionnel dans la vie de l'artiste, dans la vie de l'expression artistique ou de la créativité, et par ailleurs aussi intentionnel dans la vie spirituelle, dans la croissance spirituelle de la foi chrétienne. En accordant la priorité à un domaine, parce que par exemple nous cherchons à développer notre renommée d'artiste, nous avons besoin de vendre, donc il faut qu'on cultive nos relations, il faut qu'on développe nos réseaux, et bien en cherchant intentionnellement à vendre et à nous vendre, et bien on aura du mal à créer. Vous avez vécu ce clivage? Alors, il y en a qui ont la chance d'être en couple et d'avoir quelqu'un qui peut faire le travail de vente pendant qu'eux, ils ont créé. Dans le sud, à Avignon, il y avait un artiste de renommée internationale qui vendait des toiles. Il avait des visiteurs japonais qui venaient lui en prendre 100 tous les 6 mois. Il avait une femme qui était par ailleurs, qui travaillait dans un laboratoire de pharmacie. Heureusement qu'elle était là, parce que lui, il était incapable de vendre. Mais elle faisait beaucoup de ce travail pour lui. Mais, j'ai aussi connu un couple où c'était la femme qui était artiste et son mari qui, lui, savait utiliser les sites internet, faisait le travail de vente pour elle. Mais tout le monde n'a pas cette chance et donc vous vivrez certainement une tension entre le côté intentionnel de votre profession d'artiste et le côté intentionnel de votre créativité d'artiste. Mais nous avons aussi du mal à concilier cette approche intentionnelle dans le domaine de la pratique créative et de la foi. Et l'un pâtit souvent de la priorité que nous accordons à l'autre. Je vais déjà vous dire les thèmes que je compte aborder. Nous allons parler du temps, de la façon dont nous abordons le temps en tant qu'artiste, en tant que créatif chrétien. Nous parlerons du travail comme procédé, c'est-à-dire l'acte de travail. Nous parlerons du travail comme œuvre, enfin de l'œuvre, le travail comme réalisation. Nous parlerons de la spiritualité de l'artiste. Nous parlerons des relations de l'artiste chrétien. Et puis, je vous montrerai 3 livres à la fin, je vous lirai un petit extrait. Et quelque part dans tout ça, je vous montrerai quelques diapos. Voilà le menu. Le temps. Un gros domaine d'interaction entre notre pratique d'artiste chrétien et notre vie chrétienne, et notre foi, notre vie d'église, notre piété extérieure. la piété évangélique, je l'ai dit au début, dans les questions que j'ai posées, se nourrit, est souvent évaluée, la piété évangélique est souvent évaluée en termes de notre rapport au temps. Est-ce que le chrétien est régulier aux réunions? Nous savons bien que Jésus, quand il est venu sur terre, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, il est mort sur la croix, il est ressuscité pour que nous puissions participer à beaucoup de réunions. Parfois, c'est l'impression que nous donnons lorsque nous présentons la foi chrétienne ou lorsque les non-chrétiens nous voient vivre. Je me souviens, dans le sud de la France, je louais la moitié d'un mas provençal. Et on avait des voisins qui, le dimanche matin, belle matinée ensoleillée de Provence, ils s'apprêtaient à partir à la pêche ou préparer pour la plage. Et nous, en famille, on était là, allez, le culte, il faut qu'on aille au culte. Est-ce que vraiment ils ont envie de me rejoindre dans notre petite salle de culte le dimanche matin? La régularité aux réunions. Le temps, c'est aussi une question de lecture biblique quotidienne, en début de journée de préférence. Là encore, notre piété exprimée en termes du temps que nous y consacrons de notre régularité. L'évangélisation par les calendriers éphémérides. Vous y avez pensé un petit peu au lien entre le temps et la spiritualité, quand une grande partie de l'évangélisation de beaucoup d'églises, beaucoup de chrétiens, vous n'avez peut-être pas connu ça, mais moi je me souviens, le regard dans les yeux de l'ancien qui chaque année faisait son gros truc pour vendre des calendriers, le jour où j'ai dit, moi je ne suis pas sûr que ce soit si efficace comme méthode d'évangélisation. Là, c'est comme si j'avais dit que j'avais décidé de devenir sataniste. Ce que le chrétien fait de son temps libre. Quelle est la place pour la vie de l'artiste professionnel dans ce contexte? Évidemment, chaque artiste est différent dans sa personnalité, dans sa façon de travailler, et puis dans son domaine d'expression artistique. L'expression artistique est diversifiée. Le rapport au temps d'un flûtiste salarié d'un grand orchestre classique, avec des répétitions, des engagements, des concerts, ne sera pas du tout le même que le rapport au temps d'une plasticienne créatrice dans son atelier. Un batteur de rock n'aura pas les mêmes impératifs de temps qu'un graphiste dans une agence de com. Pas de règle, si ce n'est ce que j'ai dit tout à l'heure, une approche intentionnelle de la question. Nous sommes intentionnels lorsque nous voulons accomplir quelque chose. Les artistes productifs savent que l'importance d'une certaine structuration de leur emploi du temps. Pour produire, il faut aller à l'atelier ou au bureau avant d'ouvrir Facebook. Pour grandir dans la foi, il faut commencer par la Bible avant d'ouvrir les emails ou de vérifier les likes sur Pinterest. Mais être intentionnel, c'est bien plus que ordonner ses journées. C'est clarifier ses priorités en tenant compte de tous les paramètres, la créativité, les relations, la vie chrétienne, les besoins financiers. C'est tenir compte de tous ces différents paramètres. C'est savoir en rendre compte aussi à d'autres. Par moments, sans orgueil, mais sans honte. L'humilité chrétienne, c'est aussi pouvoir s'asseoir avec quelqu'un de temps en temps en expliquant voilà ce que je vis en tant qu'artiste. Voilà ce que je vis en tant que personne créative. C'est pas avoir à rendre des comptes à quelqu'un. C'est simplement, dans la communication, aider les autres à percevoir comment je vis. En tant qu'artiste, en tant que créatif, on est parfois un petit peu revendicatif de notre liberté. Personne n'a le droit de me demander des comptes de la façon dont je gère mon temps, mon argent, mes dons, ma créativité. Oui, c'est vrai. Mais il y a peut-être de la sagesse et de l'humilité aussi à simplement s'asseoir avec les gens autour d'une façon très simple et dire voilà, je suis ouvert, je suis ouvert à toi. Ça fait partie de la sagesse humaine, ça fait partie aussi du témoignage de la communion chrétienne et du témoignage chrétien. J'ai un ami saxophoniste, c'est un peu de lui dont je parlais tout à l'heure, qui a du mal à se lever le dimanche matin, parce qu'il gagne sa vie en partie, en tout cas, en jouant de son instrument le samedi, jusqu'à pas d'heure. Et le dimanche matin est toujours pénible pour lui. Et il ne joue presque jamais de son instrument au culte. À la désolation générale de ceux qu'il connaissent, qui connaissent son talent, mais ce serait tellement bien qu'il participe au culte. Alors, il y en a même pour qui c'est une vraie un vrai enjeu de maturité spirituelle, qu'il ne veuille pas faire bénéficier sa communauté d'église de son don de musicien. Il le dit, je vis ça, je fais de ça tous les jours, du matin au soir, soit en donnant des leçons et des cours, soit en jouant. Franchement, ne me demandez pas de ressortir mon instrument le dimanche matin. Je veux adorer Dieu, je veux écouter la parole, c'est tout. Je me souviens, ça m'est arrivé, lorsque j'étais à l'université, j'écrivais beaucoup pour le magazine. Toutes les semaines, il y avait un magazine à l'université de Cardiff. Alors, j'ai fait des études à Avignon et après, j'étais à Cardiff, au Pays de Galles. Et à Cardiff, c'est une énorme université avec un journal hebdomadaire qui sortait. Et moi, j'étais le chroniqueur hard rock, metal et opéra. Voilà, j'aime bien avoir le... faire le grand écart. Et puis, j'ai un professeur chrétien. D'ailleurs, c'est grâce à lui que j'ai pu faire mes études, parce que j'étais dans un endroit où il n'y avait pas de téléphone, pas de courrier, rien du tout, lorsque le moment de l'inscription pour la maîtrise est arrivé. Et donc, c'est ce prof chrétien qui savait où j'étais qui m'a inscrit. C'était vraiment gentil de sa part. Mais alors, lui, il avait un témoignage rayonnant à la fac. Il a décidé qu'il y aurait une réunion de prière pour le département des sciences humaines à telle heure de la semaine. C'était l'heure qui convenait au plus grand nombre. Et il était désolé parce que moi, je ne pouvais jamais venir parce que il y avait un conflit avec l'heure de la réunion de rédaction du magazine. Mon témoignage, c'était, en tant que chrétien, faire des chroniques de concerts, faire des chroniques de disques, interviewer des artistes. Et puis ça m'a ouvert énormément de portes pour l'évangile. Vous imaginez, ce n'était pas juste pour faire de l'évangélisation que je le faisais. Mais pour moi, il n'y a pas de séparation entre ce que je faisais là et ma foi. Et j'avais des occasions de discuter avec des gens autour de ce qui me motivait, qui était forte. Et ce professeur, il n'a jamais compris. Ça a toujours été un grain de sable dans notre relation. Que je préfère le magazine de l'université, c'est-à-dire que je préfère le monde, plutôt que la réunion de prière. Le temps, notre utilisation du temps. Ensuite, le travail. Le travail comme procédé. Notre acte de travailler mérite une réflexion. Il est très lié au temps. C'est pas pour rien que je les ai fait suivre ces deux considérations. Quand vous travaillez, à quoi aspirez-vous? Quel est votre objectif? Est-ce de communiquer un message? Certains artistes vivent avec cet objectif, communiquer un message. J'ai une fois, il n'y a pas longtemps, assisté à une conférence sur l'art engagé. Soutenir quelqu'un, soutenir une cause par le travail de l'artiste. Est-ce que votre aspiration principale est de gagner de l'argent? Et je ne dis pas du tout ça de manière péjorative. Nous sommes chétifs et timides lorsqu'il s'agit de parler d'argent dans nos milieux chrétiens. Et je suis convaincu que nous devrions être un peu décomplexés à ce niveau-là. Est-ce que votre pratique artistique a pour but premier d'exprimer ce que vous avez à l'intérieur de vous, votre ressenti? Évidemment, ces questions-là seront très différentes selon votre pratique artistique. Si vous êtes batteur dans un groupe de jazz et que vous gagnez votre vie comme ça, eh bien, ce ne sera pas du tout la même approche du travail que la personne qui vit en composant des poèmes et en publiant des poèmes. Attention à ne jamais accorder trop d'importance au travail de l'artiste. L'art n'est pas une valeur en soi. Vous avez peut-être vu le film Whiplash, un film relativement récent à propos d'un batteur de jazz qui se consacre à fond, il a gagné des prix ce film, qui se consacre à fond à son art, qui écrase les autres, enfin, qui doit apprendre à écraser les autres. Et c'est vraiment un film qui parle de l'art comme but ultime, quitte à renoncer à sa vie sentimentale, à renoncer à construire des relations humaines saines. J'ai un fils qui est batteur. Pas mauvais batteur d'ailleurs, et qui a déjà des fiches de retraite, hein, des droits de retraite pour sa pratique de la batterie. Je veux dire, il gagne des cachets, enfin, il n'est pas à plein temps, mais il est déclaré souvent. Alors moi, ça me fait rigoler parce que voilà, c'est toujours, ce domaine administratif est toujours un domaine où j'ai été un petit peu à la traîne. Alors lui, de voir qu'il est déjà en train d'accumuler ses points retraite et qu'il n'a que 21 ans, ça me fait rigoler. Mais bon, et je suis allé le voir avec lui. Et lui, waouh, film extraordinaire. C'est vrai, c'est un film. C'est très difficile de critiquer un film qui est extraordinaire d'un point de vue cinématographique. Mais le message pour moi était faux. Là, on peut être très bon être humain, un très bon être humain, sans être un merveilleux artiste. Et même en tant qu'artiste, on n'est pas obligé d'être l'artiste parfait et irréprochable. On n'est pas obligé de battre les autres. On n'est pas obligé d'en faire même un gagne-pain qui rapporte beaucoup. On peut se satisfaire de belles choses, de créativité. On peut se satisfaire d'une vie professionnelle heureuse, tout en ménageant du temps pour des relations humaines. On peut très bien vivre sans excellence. J'ai lu un article une fois d'un directeur de faculté de théologie. Et dans, en fait, l'article en question, c'était comment il a vécu les années où il a pris une retraite anticipée parce que sa femme avait développé la maladie de Alzheimer. C'était très touchant, c'était très beau. Et dans cet article-là, il parlait du fait que sa femme lui avait appris le danger du perfectionnisme. Très peu de choses dans la vie valent la peine d'être faites aussi parfaitement que ça. Et l'idée est que de temps en temps, il faut savoir soit se satisfaire du moins que parfait, soit arrêter, laisser en plan et puis passer à autre chose. Très peu de choses valent la peine de cet investissement total, si ce n'est pour le chrétien de la foi, de la relation avec Dieu, si ce n'est pour le couple marié de son conjoint, si ce n'est pour les parents de leurs enfants. Ce sont des choses, ce sont des valeurs. Et lorsque l'art interfère avec ces choses-là, il faut que l'artiste chrétien ait la sagesse de dire « stop » ou « attendez un moment, qu'est-ce qu'on va faire là ?» et réfléchir. Qu'est-ce qui vous inspire dans votre façon de travailler? Où cherchez-vous l'inspiration? Depuis quelques années, je vais au Hellfest, ce festival de métal dans l'ouest de la France, près de Nantes, où j'ai l'occasion d'interviewer beaucoup d'artistes. Alors, je me suis spécialisé un petit peu dans les artistes qui soit ont une foi chrétienne affichée, ils le disent, soit des artistes qui affichent une certaine christianophobie. Et une des questions que je leur... Enfin, moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi cette forme de musique est tellement fascinée par Dieu et le diable. Alors, une des questions que je leur pose, c'est de quoi est-ce qu'ils se nourrissent en tant qu'artistes? De quoi est-ce que vous vous nourrissez en tant qu'artiste chrétien, en tant que créatif chrétien? Est-ce que vous vous nourrissez auprès des autres artistes? Est-ce qu'il s'agit de l'interaction humaine? Est-ce que c'est ça qui vous fait vibrer? Est-ce plutôt la solitude? Il y a des dangers et des avantages à chacune de ces inspirations. Et une approche intentionnelle qui cherche à équilibrer la vie professionnelle, la vie privée, la foi et autour de tout ça, eh bien, devra tenir compte des dangers et des avantages. Est-ce que vous trouvez votre inspiration dans la Bible? L'artiste crée en grande partie à propos de ce que il ou de ce dont il ou elle se nourrit. Les différentes approches de cette question, nous aurons peut-être l'occasion d'en parler. Par exemple, beaucoup d'artistes, je me souviens avoir posé la question à un gars qui s'appelle Glenn Kaiser, c'était un des pionniers du hard rock chrétien à Chicago, quelqu'un qui restait de l'époque des Jesus People et qui a joué avec un groupe qui s'appelait Resurrection Band ou Res Band. Et il est toujours actif actuellement, c'est plutôt dans le blues qu'il fait parce qu'il a... Il a vieilli, comme nous tous. il a du mal. À l'époque, il jouait, sa femme était chanteuse aussi avec lui. Et je lui ai posé la question de est-ce qu'il écoutait des groupes comme... enfin, j'ai parlé de plusieurs des groupes qui, à l'époque, étaient considérés comme des groupes un peu... Enfin, de bons chrétiens, de bons jeunes chrétiens n'écoutaient pas ces groupes-là. Et il m'a dit, de temps en temps, le groupe s'asseyait pour écouter ce qu'il se faisait. ensemble et pour en discuter. C'était leur façon de rester branchés dans ce qui se faisait sans pour autant faire un plaisir parce qu'ils ne considéraient pas que ça justifiait une écoute de plaisir ou de loisir. C'est une façon. Il faut savoir se nourrir, il faut écouter les questions, c'est ce que je fais au Hellfest, c'est écouter les questions des gens qui tâtonnent, qui crient, qui hurlent leur désespoir, leur désarroi et qui cherchent. Et il faut savoir écouter ces questions, mais il faut aussi savoir se préserver. Il faut aussi savoir nourrir sa foi et s'il y a un conflit, il faut gérer ce conflit, il faut s'y attaquer, il faut faire quelque chose. Une approche intentionnelle de ces questions nous aide à avancer, mais aussi nous donne les mots pour expliquer et montrer. Le chrétien qui dit, mais tu joues dans des lieux où les gens ils consomment de la drogue tout le temps. Ça ne te dérange pas en tant que chrétien ? Ben, vous avez le choix de dire, ben, c'est pas tes oignons. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Vous avez la chance. Oui, mais tu comprends, si je faisais pas ça, je gagnerais pas de sous. Ou bien vous pouvez dire, ben, voilà mon approche. Voilà ce que je fais avec ça. Parfois, il faut avoir cette approche humble. Vous avez en face de vous un pasteur qui fait déjà 50 heures par semaine de travail. Il n'a pas le temps de parfois faire dans les subtilités. Peut-être qu'il ne se préoccupera pas de vous, mais peut-être qu'il se rendra compte qu'il ne vous a pas vu depuis 4 semaines, 4 cultes. Il va se dire, ben, y a un problème là. Quoi ? Tu joues jusqu'à 3 heures du matin dans un club ? Et ta vie spirituelle dans tout ça, comment tu fais ? Tension, pour qui il se prend, de quel droit est-ce qu'il me parle comme ça, ou bien, attends, je vais te décrire la vie que je mène, je vais t'expliquer. Une approche intentionnelle. Ensuite, troisièmement, l'œuvre, le travail comme réalisation. Le fruit fini de ce que nous faisons. Il y a une question de valeur. Comment est-ce qu'on évalue une œuvre ? Comment est-ce que l'artiste chrétien évalue le fruit de son travail ? Il y a bien sûr la valeur artistique elle-même, qui n'est pas si différente pour le non-chrétien et pour le chrétien, qui comprend des considérations de mise en œuvre du talent, du travail, du temps passé à l'entraînement, que ce soit la forme physique pour le danseur ou la danseuse, que ce soit le travail académique, technique du plasticien, travail de l'instrument pour le musicien. Il y a aussi la pertinence de l'œuvre aux préoccupations culturelles du moment. Il y a peut-être de la valeur aujourd'hui à faire et à créer ce qui ne se fait plus depuis 200 ans. Parce que ça se branche dans des besoins, dans des manques actuels. Mais si vous n'êtes pas conscient de ces manques actuels, ça ne servira à rien. Mais il faut être branché, il faut rester pertinent. Un artiste qui cesse d'être pertinent ou qui n'est pertinent qu'à son petit club, entre nous, sa petite église. Il y a des artistes qui se concentrent à un public d'église. Alors, si vous vivez dans un pays comme les États-Unis où vous avez tellement de chrétiens, ou même dans d'autres pays où il y a beaucoup, beaucoup de chrétiens, c'est peut-être un choix professionnel que vous pouvez faire et qui est tout à fait honorable. Je veux dire, moi, je n'ai rien à dire, je n'ai rien à critiquer de chrétiens qui intentionnellement décident « je vais jouer pour un public chrétien ». Mais en France, c'est rare que vous puissiez vivre de cette manière-là, ou en tout cas, il faut élargir votre définition, en tout cas, du mot « chrétien ». Restez pertinent, restez original, c'est aussi la valeur de l'œuvre. Faire ce que d'autres ont fait parce que ça se vend bien, ce qui est très bien aussi, hein. Pas de souci avec un artiste qui choisit de faire ce que d'autres font parce qu'il y a un marché, parce qu'il y a une demande. Mais aussi faire dans l'originalité lorsqu'il s'agit de créer, ça peut être une bonne... ça fait partie, c'est une considération de la qualité de l'œuvre, la valeur artistique elle-même. Ensuite, la valeur spirituelle. Là, il y a beaucoup plus de questions qui se posent pour le chrétien. Parce que je suis sûr que votre entourage, d'autres chrétiens autour de vous, peut-être vous-même à cause de votre éducation, vous avez des attentes de ce que c'est que la valeur spirituelle d'une œuvre chrétienne, d'une œuvre artistique. Est-ce que vous avez un message à transmettre ? Alors, une des choses fascinantes pour moi au fil des années, en allant à ce congrès des artistes chrétiens en Hollande, aux Pays-Bas, c'était cet assemblage, parfois assez tendu, parfois source de beaucoup d'étincelles, entre les chrétiens qui étaient des artistes professionnels et des artistes qui étaient des chrétiens professionnels. Entre d'une part l'artiste qui travaillait son art et qui prenait ses cachets là où les gens voulaient bien lui donner des sous, qui parfois créait de manière, pas forcément de manière évidente, chrétienne. Et puis vous aviez des artistes chrétiens qui font de leur art leur soit de l'évangélisation, soit une forme d'édification pour la communauté chrétienne, y compris peut-être dans l'église. Et vous aviez parfois pas mal d'étincelles. Ceux qui ont assisté à ces congrès peut-être se souviennent de certaines des discussions autour de ce genre de questions. Est-ce qu'on a un message à transmettre ? Est-ce que nous devons transmettre quelque chose en tant qu'artiste ? La question va se poser de manière très différente, évidemment, pour un guitariste de jazz et pour un chanteur-compositeur qui cherche à communiquer quelque chose par les paroles qu'il compose, ou une romancière qui a un objectif, qui dit, qui raconte une histoire lorsqu'elle écrit. Il y a, lorsque nous réfléchissons à la valeur de l'œuvre, des considérations de vérité. Est-ce qu'une œuvre est vraie ? J'y reviendrai dans quelques instants. C'est quelque chose de très important parce que pour certains, moi j'ai grandi avec des parents pour qui la vérité, c'était est-ce que l'œuvre reproduit ce qu'on voit ? Et si ça ne reproduit pas ce qu'on voit, ce n'est pas la vérité, c'est un mensonge. Alors, ma mère, à ma connaissance, elle n'a jamais lu de fiction de sa vie. Elle a grandi à la ferme au Canada. Elle s'est convertie contre ses parents, contre son pasteur, quand elle est partie en colonie de vacances et qu'il est revenu en disant au pasteur à 12 ans, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, le pasteur lui a dit textuellement, don't worry little girl, you'll get over it. Ne t'en fais pas ma petite, tu t'en remettras. Ça te passera. Et donc, elle a forgé sa foi dans un contexte qui n'est pas le mien. Et elle n'a jamais compris que je ramène des classes de dessin au lycée, déjà au lycée, que je ramène des classes de dessin, des choses qui ne correspondaient pas à la réalité. Je me souviens d'un gros clash autour d'une peinture du Mont Ventoux, dans le Vaucluse. Parce que, voilà, ça correspondait pas pour elle à la réalité. La vérité, qu'est-ce que la vérité dans l'art ? Une autre valeur artistique, une autre valeur de l'œuvre, c'est la valeur financière. Que vaut votre travail ? Que vaut ce que vous avez produit ? Comment est-ce que vous allez évaluer ? Est-ce que vous allez évaluer ça au temps passé ? Une fois, je me suis amusé à calculer ce que je gagne en droit d'auteur à publier dans les milieux chrétiens. Alors, je ne vais pas me plaindre. Ça nous fait un week-end d'un amoureux par an, grâce à mes droits d'auteur. C'est pas rien, mais ça ne paye pas les charges de la maison. Je ne sais pas, à l'heure, ça doit être de l'ordre du 5 centimes, quelque chose comme ça. Beaucoup d'artistes diraient la même chose. On ne peut même pas commencer à évaluer notre œuvre avec cette idée du temps qu'on y a passé. Est-ce la vendabilité ? Est-ce que c'est comme ça qu'on va évaluer notre œuvre ? Et c'est une très bonne évaluation, la vendabilité. Est-ce qu'il y a un public pour ce que vous faites ? S'il n'y a pas de public, Alors, soit vous avez les moyens de continuer à le faire, et le faire pour votre plaisir, le faire pour votre survie, ça peut être aussi ça en tant qu'artiste, votre survie émotionnelle, votre guérison, je ne sais pas quoi, ça, ce sont des choses réelles, et beaucoup d'artistes travaillent un peu à cause de ça. Mais il faut avoir, un moyen de secours pour se permettre ce genre d'activité professionnelle. Et puis, quand il s'agit de parler de la valeur de votre œuvre, vous allez très vite, en tant qu'artiste chrétien surtout, être confronté à l'idée qui est très fréquente dans les milieux chrétiens, particulièrement dans la société en général, mais je dirais un peu plus peut-être dans les milieux chrétiens, c'est mon expérience. L'art est un passe-temps. Fait un vrai travail. Non, l'art n'est pas un passe-temps. Un artiste professionnel ne peut pas se permettre de faire bénéficier son église locale de sa production sans aucune rémunération, tant et tant de fois que le pasteur ou que les membres de l'église le souhaitent. Il y a un groupe qui est passé à Paris à fin janvier, qui s'appelle Mute Math. C'est un groupe de rock un peu réfléchi. Et ils ont commencé, les membres du groupe sont chrétiens, et ils ont commencé dans un groupe pour la communauté chrétienne. Et ils ont décidé de sortir de ce carcan, et maintenant se sont forgé une réputation en général, en fait, dans le grand public. Et une de leurs chansons a, ils disent la chose suivante: Why don't you do more for Jesus? Et c'est une rengaine qu'ils ont entendue. Pourquoi tu fais pas plus pour Jésus avec ton art, avec ta pratique artistique? C'est une remarque qu'ils ont entendue plein de fois. Alors, ces trois champs de valeur, la valeur artistique elle-même, la valeur spirituelle, la valeur financière, il y aurait peut-être eu d'autres moyens d'agencer ou de définir, de classifier ces différentes choses. C'est comme ça que j'ai choisi de le faire. Ces trois valeurs, vous allez peut-être, selon les personnes, intervertir l'ordre de priorité. Même pour le chrétien, c'est pas la valeur spirituelle d'une œuvre qui va forcément focaliser votre attention et vos priorités. Ensuite, la foi dans l'œuvre, la foi dans l'art. Il y a des artistes qui produisent des œuvres au contenu volontairement chrétien. C'est un choix qui se défend, qui se vaut. Transmission du message, évangélisation, adoration, toutes ces choses-là, adoration de Dieu, toutes ces choses-là ont un rôle à jouer dans ce genre de considération. Mais la foi dans l'art peut aussi s'évaluer ou se trouver sous d'autres formes. Je pense à la valeur prioritaire de Dieu que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui est la vérité, l'authenticité. Il ne s'agit pas juste d'une question de représentation de la réalité, mais il s'agit d'une vérité de ce que nous ressentons. Je choque parfois les gens à qui j'en parle. J'aime bien l'art de Jeff Koons, qui a défrayé la chronique de différents. Ce que j'aime chez lui, c'est quelque chose qui, depuis ma toute petite enfance, je sais est en moi. J'aime le contraste. J'aime ce qui détonne. J'aime ce qui n'est pas à sa place. J'aime les chrétiens qui n'ont pas un look chrétien. Et je me souviens une fois, il y avait une bande dessinée qui parlait d'un musicien de métal et il disait, on dirait presque un gars normal parce qu'il était rasé, il n'avait pas les cheveux longs. J'aime ce qui détonne, j'aime l'art de Jeff Koons parce que j'aime cette écrevisse géante en plastique dans le palais de Versailles ou dans une pièce classique. J'aime ce contraste esthétique entre l'objet plastique et la rigueur esthétique classique du lieu. Ces animaux en aluminium qui ressemblent à des ballons gonflables. Ce contraste entre la solidité du métal, du chrome et la fragilité d'un ballon. ou bien ces monuments faits avec des fleurs, la fragilité contrastée avec le gigantisme. Même, bon, je ne les affiche pas chez moi, je dois en avoir peut-être un ou deux dans des livres, mais même ces photos avec la cicciolina, c'est comme ça qu'on prononce à l'italienne, qui sont inacceptables du point de vue de, parce que du point de vue chrétien pour la plupart des gens, et tout à fait, j'ai souscrit à ce point de vue, où il se montre avec sa femme, enfin, elle était sa femme, elle ne l'est plus, star du porno, nue, exhibée, dans des poses mises en scène de façon sacrée. J'aime ce contraste qu'il travaille entre l'art érotique et le sacré. Alors, je m'en nourris pas, j'affiche pas ça chez moi, mais je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant dans cette façon de juxtaposer. Alors, visuellement, c'est inacceptable. Au niveau de la pensée, au niveau des récits bibliques, ça y est, hein. Alors bon, on en reparlera si vous voulez. Le contenu spirituel vrai. J'ai un livre ici que j'ai amené dans le train. Il fallait vraiment que j'ai envie de vous le montrer, ce livre. C'est Popologetics. C'est de Ted Turnau. T-U-R-N-A-U. Malheureusement, il n'est pas en français. Les deux autres que je vais vous montrer sont en français. Celui-là, c'est le seul que j'ai mis en anglais, où il parle de... Il évalue la vérité de certains films. Et il parle de la nudité dans les films. Alors, une fois, j'ai eu devant moi une actrice chrétienne qui m'a dit, je sais, en tant que femme, que le jour, si je veux, dans ma carrière, faire carrière, un jour ou l'autre, on me demandera de me dénuder. Et si je veux y aller, si je veux avancer dans ma carrière, il faudra que je sois prête à le faire. Alors pour une actrice chrétienne, c'est intéressant comme dilemme, comme question. Alors les mecs, on a moins besoin de se poser... Alors ça veut dire que je dois bientôt me taire pour vous passer la parole, enfin pour montrer les diapos et vous passer la parole. En tant que chrétien, où est la limite de ce genre de choses? Turnau, il parle de deux films où il y a de la nudité. Il parle de Showgirls, de Verhoeven, qui est un film qui exploite le corps féminin. Et il dit que dans la liste de Schindler... Il y a presque autant de nudité. Alors moi, j'ai pas calculé. Il y a beaucoup de nudité féminine. Il dit, mais c'est pas de la nudité gratuite. Il y a un film qui est faux, mensonge, l'autre qui est vrai, vérité. Très intéressant comme réflexion. Très intéressant comme façon d'évaluer la production artistique. Je pourrais vous parler de la classification que Steve Turner fait dans ce livre. Imagine le chrétien et l'art, dont je vous ai parlé tout à l'heure aux éditions Farel, où il parle de l'art et de son contenu chrétien en termes relatifs. Il a dit, le contenu chrétien du guitariste de jazz ne sera pas le même que le contenu chrétien de l'œuvre d'un romancier ou d'un parolier de chant, de chanson. Un autre film que Turnau mentionne, j'aurais dû le dire, c'est My Fair Lady. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, ce truc-là. De George Cukor. Pareil ? D'accord. Ok. Qui se termine, voilà, c'est une histoire belle, c'est family viewing, on peut regarder ça avec les enfants, pourtant, Turnau, il dit, c'est un message profondément antichrétien, non seulement, principalement parce que il se termine sur une note complètement sexiste et très attachée à la séparation des classes. Le professeur qui a enseigné à la petite demoiselle qui l'a formée, ben finalement, elle lui revient sur ses termes à lui. Elle dit ça, c'est un message, les chrétiens devraient y être opposés. On pourrait parler aussi de la question de l'adoration et de la gloire de Dieu dans l'œuvre artistique. À quoi sert... l'adoration et la gloire de Dieu. Ah oui, et ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de la pratique de l'art dans le champ, entre dans le champ de l'adoration, potentiellement un artiste chrétien qui travaille et qui veut mettre dans son art de la vérité, qui veut mettre dans son art de l'authenticité, qui veut mettre dans son art des valeurs réelles, des valeurs bibliques, est un artiste qui, parce qu'il travaille de manière intentionnelle, au niveau de la foi, au niveau de l'art, peut se dire qu'elle est en train de travailler à la gloire de Dieu. Dieu n'est pas glorifié simplement parce qu'on dit Jésus dans toutes les paroles des chansons, parce qu'on peint des images bibliques. Je ne pense pas avoir besoin de vous le dire, mais parfois ça vaut la peine de se rappeler ce genre de choses. La spiritualité de l'artiste, nous pourrions en parler longtemps. Le bien et le mal, l'art n'est ni bien ni mal, il est vecteur, il peut être vecteur des deux. Le péché et la grâce, c'est un schéma auquel on n'échappe pas facilement. À la fac d'Avignon, il y a quelques années, on a eu un visiteur, un prof qui visitait d'une université australienne, pour nous parler de la littérature australienne. Il dit, de toute façon, la littérature australienne, elle était construite sur le schéma biblique chute, grâce, rédemption. Alors moi, tout de suite, en tant que chrétien, responsable de GBU, de surcroît, tout de suite, ah, quoi? En classe, là, devant 200 personnes. Il dit, voilà, tous les Australiens, à l'origine, c'était des forçats. C'était des criminels qui ont été expédiés par les Anglais en Australie. On parle des Australiens qui ne sont pas Australiens de souche. Il y avait bien sûr des populations australiennes qui étaient déjà là. Il a dit toute la littérature australienne est imbue de ce schéma du fautif qui se rachète, qui se rattrape. Il y a un romancier que j'aime beaucoup, un Australien, qui s'appelle Tim Winton. C'est d'ailleurs par des amis chrétiens que j'ai entendu parler de lui. Il paraît qu'il... Tim Winton, il paraît qu'il... qu'il est membre d'une petite église méthodiste en Australie là-bas. C'est un romancier qui a été nominé, il n'a jamais gagné, mais il a été nominé plusieurs fois au Orange Prize en Angleterre, l'équivalent du Goncourt en France. Ses romans sont disponibles en français aussi, hein, vous les trouverez partout. Tim Winton, W-I-N-T-O-N. Et j'ai lu toute son œuvre, un romancier, beaucoup de nouvelles, de courts romans. Et il a écrit un recueil de nouvelles ces dernières années qui est très intéressant parce qu'il essaye dans une de ses nouvelles, c'est un recueil de nouvelles où les différents personnages se retrouvent dans toutes les histoires. Et il y a une histoire où il y a un couple qu'on pressentait un couple chrétien, c'est leur histoire dans ce recueil. Et on s'y reconnaît, hein. Je veux dire, si vous connaissez un petit peu les milieux évangéliques, c'est pas forcément le cas de tout le monde ici, mais si vous connaissez un petit peu les milieux évangéliques, c'est vraiment la petite famille évangélique. Et bien, de toutes les nouvelles du recueil, c'est la plus pauvre, c'est la plus artificielle, c'est la plus insatisfaisante. C'est intéressant. Les autres, c'est des histoires de gens cassés, de voyageurs qui luttent, qui avancent dans la vie, et c'est beaucoup plus riche. On est tous des pèlerins. La foi dans l'artiste. J'ai parlé de la foi dans l'œuvre, dans l'art. Il y a aussi la question de la foi dans l'artiste. Les pratiques de la piété, la fidélité, le temps passé, la prière, la communion. Dieu et le monde immatériel. En tant que chrétiens, nous oublions à quel point le diable nous en veut. Nous oublions, nous avons de la peine à parler du diable. Essayez de parler du diable. À vos voisins, à vos collègues de travail, c'est difficile. Pourtant, il est dans la Bible très souvent notre ennemi. Il est un adversaire. Et nous faisons bien de savoir comment aborder cette question de l'agent principal du mal. Il en veut aux chrétiens, il en veut à l'Église. Et nous vivons et travaillons en l'ignorant à nos dépens. Et nous en pâtirons, nous en souffrirons si nous ne tenons pas compte du fait que nous avons un adversaire. Mais j'aimerais aussi souligner, avant de passer au diapo, que le chrétien, dans sa piété, a un allié absolu, Dieu lui-même, créateur, premier créateur, type même du créateur, de l'artiste. Mais surtout, quelqu'un qui sait. Si vous êtes de ces artistes qui un jour avaient dû constater que les chrétiens autour de vous ne comprennent pas votre œuvre, eh bien sachez que Dieu, lui, il comprend votre œuvre. Il comprend votre œuvre. Il sait, il connaît, il comprend, il valorise. Dieu donne l'exemple. Et puis, en tant que créatif, moi, il y a quelque chose qui me console beaucoup. Dieu est capable de tout entendre. Il y a des choses qu'un artiste n'osera jamais montrer à son pasteur. Il y a des choses qu'un artiste n'osera jamais montrer à son conjoint. Il y a des choses qui sont du secret intérieur et que certains artistes essayent d'exprimer parfois. eh bien, Dieu peut les entendre. J'aurais pu parler des relations, je vais juste lire mes notes à ce propos, les relations de l'artiste chrétien. Comment est-ce que l'artiste va utiliser les autres? Vous connaissez, vous, des gens, pas forcément des artistes, mais des artistes sont particulièrement, malheureusement, visés par ce que je vais dire là. Connaissez des gens qui n'ont d'intérêt pour les projets des autres ou qui n'ont d'intérêt pour les autres que s'ils servent leurs propres desseins, leurs propres objectifs? Moi, je connais des pasteurs comme ça. Si vous êtes dans leur optique, si vous les aidez avec leur projet d'évangélisation, vous êtes quelqu'un de bien. Mais si vous n'avez pas particulière, mais s'ils ne voient pas comment vous l'utilisez, ils vous passent devant. Vous ne comptez pas beaucoup pour eux. Il y a des artistes comme ça, il y a beaucoup d'artistes comme ça, qui, s'ils voient une collaboration potentielle, ah, les copains, allez, tu viens, on va prendre un verre. Si votre forme d'expression ne les intéresse pas, ou si vous-même, vous ne leur tapez pas dans l'œil, non. Comment est-ce que l'artiste chrétien utilise les autres artistes? Un intérêt non fin, l'inspiration, la générosité, pas seulement utiliser les gens, mais être avec eux, les encourager. On va passer les diapos. Alors, voilà, juste quelques diapos pour illustrer plusieurs des choses. J'ai essayé de classer ce que je vais vous montrer en vous disant, j'ai essayé de les classer pour les caser dans mes propos. Et en fait, je n'ai pas réussi. Parce que plusieurs des diapos que je vais vous montrer sont. Ça rapporte à différents propos que j'ai pu vous tenir depuis le temps que je vous parle. Première diapo, est-ce qu'on éteint ou c'est là? En bas? Voilà. Première diapo, donc. Ça y est, maintenant je vais arrêter parce que je sais que je dois. Première diapo, c'est une scène qu'on reconnaît bien. Première vue, on a l'impression de reconnaître la forme. C'est pour une très bonne raison. C'est la scène de Léonard de Vinci. Mais ce qui est intéressant pour Ben Willikens, c'est un Allemand. Vous aurez pu le deviner, Abendmahl, la scène. Je ne sais pas du tout s'il est chrétien. Tout ce que je sais, c'est que cette œuvre-là, elle a énormément à me dire en tant que chrétien. D'ailleurs, c'est mon bureau d'ordinateur depuis des années. C'est la chambre haute le matin de Pâques. C'est comme ça que Ben Willikens décrit la chose. La chambre haute le matin de Pâques. Un autre artiste qui m'a énormément inspiré, Zdzisław Beksiński. C'est trop long à vous expliquer pourquoi, mais à la fac, j'ai fait des études de lettres et on a dû beaucoup étudier Hemingway. Vous connaissez peut-être la nouvelle de Hemingway qui s'appelle « Un lieu propre et bien éclairé ». Vous avez un serveur ou un gars qui tient le bar, qui a un café tard la nuit, qui est en train de balayer et qui est en train de réciter le Notre Père à sa façon. En remplaçant tous les noms par nada, ça se passe en Espagne, ça se passe à Madrid si je me souviens bien. Notre nada qui est au nada, que ton nada soit nada. Nada en espagnol ça veut dire rien. Et ça exprime le vide de Hemingway. Et moi j'étais là en tant que chrétien à étudier ces écrits en me disant, mais moi j'ai la réponse à ce vide. Je ne l'ai pas entièrement, mais je l'ai suffisamment. Beksiński, c'est ça. Chaque fois que je vois son œuvre, je suis pénétré par son vide, l'isolement de ses personnages, l'incapacité à communiquer, et je suis heureux de ma foi chrétienne. Quelqu'un, Britt Wikström, quelqu'un que plusieurs connaissent, célèbre parmi ceux qui ont fréquenté le congrès des artistes chrétiens, Jacob et l'ange. Depuis que j'ai vu cette sculpture et que j'ai entendu Britt en parler, je ne lis plus la Bible, je ne lis plus ce récit de la même façon. Je n'ai pas dit que je ne lis plus la Bible, je ne la lis plus de la même façon. Ce Jacob et l'ange dans une étreinte qui est autant empoignade que embrassade. J'en parle dans un de mes livres d'ailleurs, de cette statue. Toujours Britt Wikström, Who's Next? C'est une œuvre qui a été, c'était une offre pour, c'est une, un appel d'offre, une réponse à un appel d'offre de la part d'Amnesty International, je crois. De ces êtres torturés, et vous remarquerez bien qu'il y a un poteau vide. À qui le tour, c'est le titre en français de cette œuvre. À qui le tour, Amnesty International, je n'ai pas besoin de vous faire le détail. Alors, il y a quelques années, je suis allé en République tchèque. Alors, à Prague, il y a un musée, musée d'art, qui rassemble des œuvres. C'est un peu fouillis, mais c'est super parce qu'il n'y a personne. Je ne sais pas pourquoi. J'ai passé une heure dans la salle Picasso avec des œuvres majeures de Picasso, pas très connues, parce qu'à cause du communisme pendant tant d'années en Europe de l'Est, ce sont des œuvres qui n'ont pas figuré dans toutes sortes de catalogues, qui n'ont pas des Van Gogh, de grands Van Gogh qui n'ont jamais été faits en tapis de souris pour ordinateur, qui n'ont jamais fait des cartes postales, etc. Et j'ai refait le tour du musée, et j'y suis retourné quelques années plus tard, parce que je m'étais dit, mais mince, il y a beaucoup de crucifixions sur les murs de ce musée. Alors, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire de l'art, mais bon, quelques photos que j'ai prises de ce musée à Prague, en commençant par le 12e siècle, 17e. Alors, moi, pour ce qui est de l'art cultural, c'est le 20e, 21e qui compte. Si c'est avant 1900, j'ai du mal. Excusez-moi, mais c'est comme ça que je suis. J'y reviendrai à celui-là, on le regardera à nouveau. Planting of the Cross, Jan Altengruber. Planting of the Cross, la mise en terre de la croix. August Brumse, très influencé par les Allemands. The Mourning, le deuil. Des lamentations. Pardon ?
La descente de croix.
Descente de croix. Merci, c'est une bonne... Ouais. Alors là, on voit avec le XXe siècle l'art qui commence à s'interroger socialement. Interrogation sociale de Christ noir, Alan Davis. C'est presque... Ce sont tous des Tchèques, sauf celui-là. C'est encore mon Beksinski que j'aime bien. Encore, là, je l'ai mise là, non pas parce qu'il est dans ce musée, mais parce que c'est une œuvre qui reprend. Bon, ça se voit que la Shoah est passée par là. On ne peut pas représenter la crucifixion de cette manière-là si on n'a pas en tête la Shoah. Toujours à Prague, Philippe Turek, la petite affiche qui allait avec cette œuvre-là, qui est reprise là, c'est bon, ça s'appelle Broom Cross, croix balai, et c'est une croix qui est faite avec des lumières de Noël. Hein, les petites lumières hein, multicolores et des balais. Et la petite affiche dit l'incarnation de Jésus et Noël n'a de sens que si elle concerne autant la femme de ménage que l'artiste. Broom Cross. Quelqu'un qui travaille beaucoup avec les codes du graphisme, j'ai beaucoup aimé sa façon d'intégrer la croix à la vie de tous les jours et à l'activité professionnelle. Fasciné par Pâques. Un jour, j'aimerais bien parler à quelqu'un qui s'y connaît en art tchèque. Pourquoi est-ce que... tout ça, c'est vous avez vu les dates défiler, là. On dirait que la crucifixion, la croix, sont des thèmes qui préoccupent plus la jeune génération encore que celle d'avant. Pourquoi, je ne suis pas sûr. Je reviens à Jan Altengruber. Ça, c'est un tableau que beaucoup de chrétiens ne considéreraient pas comme quelque chose de très spécial. Si ce n'est... que, pour moi, et j'ai des raisons à penser ça, même si je ne parle pas tchèque, j'ai essayé de faire des recherches. Comment pensez-vous que Jésus a vu la scène? Voilà. On est terminé. Est-ce que vous avez des questions, des remarques? Nous avons convenu de prolonger un petit peu le temps... Oui, on peut rallumer. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des choses sur lesquelles vous aimeriez que je revienne? On aura l'occasion d'en discuter un peu plus en petit groupe cet après-midi, mais vous serez reparti, donc maintenant c'est l'occasion si vous avez des choses à aborder.
Vous parlez du message de l'artiste dans l'œuvre.
Ouais.
Et vous dites qu'il n'y a pas de bien ni de mal.
Non, j'ai dit que l'art en lui-même n'est ni bien ni mal. Il est un vecteur qui peut déboucher sur l'un ou l'autre. Ouais. Voilà mon propos.
Ce serait une question de réflexion.
Ouais. Je considère, quand je dis l'art, je parle de la forme qui peut servir un fond mal ou un fond bon. En règle générale, je dirais que la plupart de l'expression artistique n'est ni au service du bien ni au service du mal. Ce serait une vision manichéiste du monde qui serait ridicule. Mais ça peut l'être. Un artiste peut servir le bien ou peut servir le mal de manière intentionnelle. Oui.
Moi, je reviens sur le contenu de l'œuvre qui a suscité la question: est-ce que nous devons toujours transmettre quelque chose en tant qu'artiste? Et j'aimerais poser la question différemment: est-ce qu'on peut ne pas transmettre quelque chose en tant qu'artiste? Est-ce que c'est possible de faire quelque chose?
Là, tu poses une question philosophique, Gaëtan. Est-ce qu'on peut transmettre le vide? Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse claire à ta question. Ce que je dirais, néanmoins, c'est que on peut une certaine forme d'artiste, on peut transmettre quelque chose qui n'est pas forcément un message, qui n'est pas forcément une communication. On peut transmettre. Alors, est-ce que de transmettre de la beauté, est-ce que de faire quelque chose en tant qu'artiste qui suscite un waouh chez l'observateur ou l'auditeur, est-ce que c'est transmettre un message? Je ne sais pas. Toi, tu peux répondre pour toi. Je ne pense pas qu'on puisse vraiment définir les choses aussi clairement. Je pense qu'un artiste peut époustoufler ou désoler ou interroger sans forcément chercher à transmettre un message. Oui.
Imaginons par exemple un musicien,
oui.
un guitariste qui joue de la guitare. Forcément, il frappe sur des cordes qui s'entendent.
Oui.
Donc les cordes pour la musique, elles sont visibles de par le son.
Oui.
Une image, un portrait est visible de par la vue. Peut-être que la question de transmission peut ne pas se poser chez l'artiste parce que il s'est réveillé, il a eu l'envie de faire un truc.
Oui.
Mais cette question peut se poser doublement aussi auprès de la personne.
Du public, oui.
Donc, il y a des personnes qui peuvent être insensibles à alerter. Comme il y a des gens qui lisent la Bible, sans bien comprendre. Et à un moment donné, ils peuvent revenir là-dessus, ou des textes qu'ils ont déjà lus, et que 10 ans plus tard, ils reviennent, ça a changé de sens. Ça, c'est...
Ouais.
Donc, c'était juste pour dire que la clé est... dépend surtout de la réception. Soit on n'a rien reçu, comme je peux jouer de la guitare, ça ne fait rien du tout pour X personnes qui écoutent, alors que pour son voisin, ça attirerait quelque chose.
Merci beaucoup. Remarque pertinente.
À un certain moment, tu as dit cela fait partie de notre rédemption. Et j'ai lu certainement des dizaines de livres sur l'art chrétien. Et ce mot « rédemption » revient tout le temps.
Mmh.
Alors, je me suis dit, en disant parfois que même là a une valeur rédemptrice, est-ce que c'est le bon mot? Est-ce qu'il y a une base biblique pour parler de rédemption par rapport à l'art?
Oui. Voilà. Est-ce que le terme « rédemption », est-ce qu'il y a une base biblique pour parler, pour appliquer le terme « rédemption » ou « rédemptif »,« rédempteur »
J'ai une valeur rédemptrice.
Valeur rédemptrice à l'art. Nous avons certainement, tels que nous sommes ici, différentes réponses à cette question. Évidemment, l'art ne participe pas à la rédemption. On ne peut pas se racheter de nos péchés en faisant de l'art. On peut communiquer le message de la rédemption par l'art. Et toute pratique, qu'elle soit artistique, mais professionnelle ou autre, toute la vie du chrétien est une façon, d'après ma lecture du texte biblique, toute la vie du chrétien, dans son travail, dans ses loisirs, dans ses relations, est une façon pour Dieu de montrer à quoi ressemble la rédemption. Voilà des gens rachetés. Voilà des gens qui ont bénéficié de la rédemption. Voilà comment ils vivent. Voilà comment à quoi ressemble le royaume. Donc, pour l'artiste chrétien, il faut que l'artiste chrétien soit intentionnel dans sa façon d'utiliser son art pour montrer voilà comment Dieu est, voilà comment le chrétien, voilà comment Dieu veut que les chrétiens soient. C'est en ça que je dirais qu'il y a il y a un lien entre la rédemption que Jésus a accompli pour nous, c'est lui qui l'a accompli, c'est pas nous qui la faisons, et la vie de l'artiste. Une dernière question et on passe. Il y a deux lois qui se sont levées et puis voilà. Mais si c'est court, faites court, voilà.
Non, je vous laisse. Bon, si j'ai bien compris, ce qui n'est pas sûr, vous avez parmi d'autres donné l'exemple de ce couple qui a décidé de faire un film porno.
Non, ce sont des mises en scène, ce sont des photos en fait. C'est pas un film. Oui. D'accord. C'est une actrice de porno qui a épousé un artiste. Voilà.
Oui, parce que la question loi. L'art ne doit-il pas surprendre, interroger, mais jamais choquer?
Ouais.
C'est ma question.
Alors, je ne suis pas sûr, je ne suis pas forcément d'accord avec vous. Choquer, ça peut être très salutaire, très bon, par moment. Alors, choquer en montrant une femme nue, d'abord, ça ne choque plus. Et ça, c'est un constat déjà d'échec. Mais en même temps, je dirais que si c'est mauvais, si on va critiquer l'œuvre de Jeff Koons, Moi, je trouve qu'en tant que chrétien, c'est pas parce que c'est choquant qu'on va critiquer.
Voilà. Heurter.
Oui, heurter. Moi, j'aime bien heurter les gens. Je trouve que parfois un petit choc électrochoc de temps en temps. Moi, on m'en a fait de temps en temps et ça m'a fait du bien. Et j'aime bien aussi quand les relations humaines se font comme ça. Oui.
Tout dépend dans quel but.
Exactement. Exactement. Oui. Et encore, je trouve que ce genre de réflexion, qui est une très bonne et nécessaire réflexion, parfois, par exemple, un artiste a besoin de choquer pour être vu. Je veux dire, se montrer, se faire voir, se vendre, ça fait partie des obligations de l'artiste, y compris de l'artiste chrétien. Et donc, s'il s'agit de choquer, si on a besoin de choquer pour faire ça, dans un sens, pourquoi pas, C'est pas choquer qui est mauvais. C'est la manière dont on le fait. C'est le matériel qu'on utilise pour le faire. Je ne devrais pas te donner la parole, Gaëtan. On va garder ça pour cet après-midi. Désolé. Voilà. Merci beaucoup. C'est l'heure de manger. Vous avez faim. Voilà.